Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
On vous dit que pour gagner du temps, il faut tout faire d'un coup. Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 623. J'espère que vous avez bien goûté la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de batching. Et oui, parce que le batching est mis en avant par de nombreux créateurs. Ça fait partie des conseils que l'on lit souvent par des créateurs de contenu, dans des formations, dans des conseils que l'on trouve à droite à gauche. Et pourtant, moi, je vous dis que je pense que ce n'est pas adapté pour tout le monde, et pire, que ça peut vous paralyser pour créer et que ça peut vous empêcher de créer et donc d'atteindre votre objectif. Voilà, c'est dit, on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu et vous savez qu'il y a 10 ans, je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi. Et depuis, j'aide des créateurs, des entrepreneurs, des petites entreprises et des grandes entreprises à créer du contenu en ligne, à développer leur marketing. Et en fait, ce que je veux faire par ce podcast, c'est vous inciter à avoir vous aussi une vie créative, vous aider à avoir votre vie créative. Et une vie créative, c'est pas forcément être indépendant à 100%, c'est tout simplement avoir dans sa vie un moment où on crée des choses qui vont créer notre futur. Notre futur s'écrit maintenant et moi je pense qu'il passe par la création de contenu, par le partage de notre expérience, de notre passion, de notre savoir, pour aider notre audience, nos fans à faire la même chose que nous. Bah oui, tout simplement parce qu'on les inspire, parce que notre parcours est inspirant, qu'elles ont envie de faire la même chose et donc on va leur délivrer de la formation gratuite, payante pour arriver à faire tout simplement la même chose. Dans mon cas, par exemple, c'est du podcast. J'ai des formations sur le podcast qui vous expliquent tout simplement comment créer du podcast, comment développer votre podcast. Et je vous explique notamment comment je gagne des milliers d'euros par le podcast, puisque maintenant le podcast, notamment Kimet 42, est capable d'assurer mon salaire. Et je vous explique dans mes formations comment je suis capable de le faire. Vous allez dans les notes d'épisode, je vous mets le lien vers mes formations sur le podcasting, justement pour vous expliquer tout ça. Venons-en donc maintenant à mon sujet du jour. Hier, j'écoutais un podcast et le créateur disait qu'il enregistre tout un mois d'épisodes de son podcast, environ en 3 jours. Donc ça fait, il disait, voilà, je travaille environ 5 épisodes en 3 jours, dire sur un mois à peu près. Enfin, il en fait un petit peu plus, donc on va dire qu'il fait 5 épisodes en 3 jours, 3 jours, 3 jours et demi. C'est-à-dire qu'il crée le script, il enregistre, il monte, il fait le texte d'accompagnement, il fait la publication, il la programme sur son blog, etc. Tout ça en 3 jours. Oui, oui, 3 jours. Alors, ce conseil, il est souvent donné, c'est ce qu'on appelle le batching. Le batching, vous savez, c'est réserver un temps dans son agenda pour faire toute une série de contenus, enfin toute une série de tâches identiques, en une seule fois. On crée tout d'un coup, par exemple. Alors la justification, c'est que comme ça, on va thématiser une journée, une demi-journée sur un seul sujet. On s'installe, on est dans une énergie pour créer du contenu, par exemple. On fait tout d'un coup, là, comme ça. On évite de passer d'un sujet à l'autre. Et c'est notamment l'un des conseils de ceux qui veulent faire du deep work. C'est vraiment là-dedans. Quand on est dans le deep work, on est vraiment dans ce type de conseil. On est dans son projet, on le fait à fond, on ne pense à rien d'autre. On ne passe pas de son projet à ses mails, on ne passe pas de son projet à aller à droite à gauche faire des courses ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vrai que c'est un bon conseil. Voilà, c'est un bon conseil sur le principe. Mais moi, je pense qu'en fait, ça pose problème. Un créateur que je suis donne par exemple un conseil de dire, de 8h à midi, tu vas écrire tous tes posts Instagram pour le mois. Bon, alors, ça fait pas 30 posts, ça fait un peu moins, parce qu'il est sur plutôt 2-3 posts par semaine, mais si vous faites 3 posts par semaine et que vous devez créer tous les posts Instagram du mois, ça vous fait environ 12 peut-être 15 postes à créer tout d'un coup dans une seule journée. Un autre disait, tu vas prendre 3 jours par mois pour créer tout ton contenu. Un autre, il dit, tu vas créer tout ton contenu Instagram le lundi matin. Voilà, tout ton contenu Instagram de la semaine, tu le crées le lundi matin. Ce qui, dans son cas, faisait 5 à 6 postes environ avec des réels, ses compagnies, à voir combien ça fait. Mais en tout cas, on est dans cette zone-là. Ces conseils sont bons et fonctionnent. Probablement, oui, probablement. Et d'ailleurs, s'ils les donnent, c'est que ça fonctionne pour eux. Mais en fait, je n'aime pas vraiment ce conseil et je pense que ce conseil est vecteur de frustration, de découragement et même d'abandon. Oui, oui, vraiment d'abandon dans la création de contenu. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voici les problèmes que je constate. La première, pour moi, c'est qu'on perd en réactivité, en souplesse, en agilité. En fait, on perd le lien au moment présent, le lien avec l'élan du moment, le fameux momentum dont certains parlent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où on est plutôt sur une thématique, sur sur un élan, on vient d'expérimenter un truc, on vient de tester quelque chose. Et en fait, le moment où on est le meilleur pour le partager, c'est quand on vient de le faire, souvent, ou quelques jours après, hein, dans l'élan. Par exemple, vous avez réussi à monter un nouveau boîtier électrique sur votre porte de garage et qui est commandé par votre iPhone des kilomètres là-bas. Bon, bah, sur l'instant, vous êtes super heureux de votre truc. Vous avez envie de le partager, de le montrer. Alors, vous avez commencé à faire une story sur le sujet, puis vous allez peut-être faire une vidéo, vous allez peut-être faire un podcast ou je sais quel, pas comment vous allez le faire. Mais en tout cas, c'est sur ce moment-là, vous êtes dans l'excitation d'avoir réussi à le faire. Et cette excitation, elle va se voir. Elle va tout simplement se voir. Alors là, je vous parle de domotique, mais j'aurais pas pu vous parler de sport, je pourrais vous parler de cuisine ou je ne sais pas quoi. En fait, il y a un moment donné, on est dans son élan, comme ça, on va partager des choses. Et peut-être qu'on pourra faire plusieurs contenus qui vont être sur ce même élan, voilà, tout simplement. Mais est-ce qu'on est capable tout simplement de dire à un moment donné, là l'élan que j'ai au début du mois, je l'aurai aussi sur la fin du mois, c'est-à-dire que je vais créer des choses en début de mois, et puis peut-être qu'à la fin du mois finalement ces contenus-là ils seront moins intéressants, je me dis bon sur mon compte Instagram ils sont peut-être un petit peu perdus, ils sont pas trop en lien avec mon actualité, voilà, moi je le vois comme ça en tout cas, je trouve qu'en fait on perd le lien avec le moment présent, en tout cas c'est ma vision des choses. Alors il y en a qui ont une vision plutôt froide de leur contenu, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans l'actualité, quoi qu'il se passe autour d'eux, etc., ils vont publier assez avec un calendrier de publication très strict, le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, etc. Moi, je trouve, je suis un peu gêné par ça, voilà, donc je vous le dis très clairement, je trouve qu'en fait, il y a aussi, il faut profiter de l'inspiration du moment. Alors ça veut pas dire qu'on ne va pas thématiser ces semaines, ça veut pas dire qu'on va pas thématiser, mettre des plans, des choses comme ça, mais qu'il faut garder un petit peu de souplesse et que parfois, bah, être trop rigide peut nous amener tout simplement à ne pas trop avoir envie de créer ou alors ne pas avoir envie de publier ce qu'on a créé, ce qui peut être pire, parce que dans ce cas-là, on a passé du temps à imaginer des choses, à produire des choses, et puis quand c'est le moment de publier, on dit bon, ben en fait, c'est plus trop le moment de le publier, j'ai plus trop envie de le publier, et là, je trouve que c'est double perte de temps. Et puis, on ne crée pas une habitude de créativité en créant les choses une fois par mois. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment mon truc à moi. C'est, vous savez que je suis un fan des habitudes. Je pense que c'est l'habitude, sont les routines qui permettent de vraiment progresser. C'est de faire des choses tous les jours qui permettent de progresser. Et vraiment, vraiment, cette habitude du batching, pour moi, elle est contraire à ça. Si vous ne faites une action qu'une fois par mois, même si vous la faites comme ça, une fois par mois, mais que vous faites 10 heures d'un coup, vous la faites, eh ben, peut-être que dans le temps, ça sera équivalent à ce que vous fassiez 10 heures en une fois tous les jours 30 minutes. Je sais pas, peut-être. Hein, peut-être qu'on va arriver à peu près dans le même temps. J'ai pas fait de calcul. Mais en fait, à chaque fois que vous la faites, bah vous recommencez parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis un mois. Donc à chaque fois que vous allez le refaire, il va falloir tout remettre en place, tout recommencer, tout se remettre dans l'habitude, enfin dans l'habitude qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur l'habitude, bah vous allez travailler sur finalement de dire il va falloir que j'ai un déclencheur, une motivation, quelque chose comme ça pour me lancer. Moi je le prends dans le podcast, hein, tout simplement, c'est que prendre l'habitude d'appuyer sur le bon bouton rouge enregistrer, c'est quelque chose dont je parlais beaucoup au début, qui maintenant est très simple pour moi, c'est-à-dire que appuyer sur ce bouton rouge, je n'y pense même plus, mais je n'y pense plus parce que j'ai pris l'habitude de le faire et qu'à n'importe quel moment, je suis capable d'appuyer sur ce bouton rouge. Pourquoi ? Parce que tous les jours, j'ai appuyé sur ce bouton rouge d'enregistrer. Tous les jours, j'ai pris l'habitude, rassembler des idées, enregistrer, publier. Voilà, tous les jours. C'est devenu tellement naturel cette histoire-là qu'en fait maintenant je n'ai plus besoin d'y penser. Mais je n'ai plus besoin d'y penser parce que c'est devenu une habitude, quelque chose que je suis capable de faire. Et vous savez, c'est un petit peu, moi je vois ça un peu comme un violoniste ou un musicien. Un violoniste ou un musicien, on pourrait dire, bon, il doit faire des heures et des heures de répétition. Mais en fait, il joue tous les jours. Il joue pas juste seulement de temps en temps. S'il joue pas tous les jours, il perd l'habitude. Il n'est pas capable de travailler facilement son instrument. Ça devient plus compliqué. Et à chaque fois qu'il le prend, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, il y a aussi un troisième point qui est pour moi important, c'est l'énergie. Ceux qui apprécient le batching disent que c'est un moyen de rentabiliser l'énergie qu'on met dans une tâche. Par exemple, j'ai l'énergie pour faire des vidéos, et donc, ben, cette énergie que j'ai pour faire de la vidéo, je vais me mettre dans l'énergie de faire la vidéo, et donc je vais faire mes vidéos. Et moi, je trouve au contraire qu'il est difficile de garder la même énergie pour faire plusieurs contenus à la suite. Si vous faites plusieurs vidéos comme ça à la suite, ben, il y a fort à parier que vos dernières vidéos, elles soient moins énergiques que la première. Quand vous avez fini votre premier épisode de podcast, est-ce que vous avez l'énergie pour faire un deuxième épisode de podcast? Si vous avez passé une heure avec un invité à discuter avec lui, est-ce que vous avez l'énergie pour faire un deuxième épisode puis un troisième? Ben, moi, je sais que c'est plus compliqué. Quand j'étais prof à la fac, je faisais du batching pour des questions d'organisation et de transport. Alors, j'allais à Clermont pour faire mes cours le mardi, hein, comme ça. Puis le mercredi, j'allais à Vichy pour faire d'autres promos. Et en fait, je prenais toutes les promos. Et donc, c'était logique, parce que comme ça, je faisais le déplacement, je partais le mardi matin à peut-être 7h, je rentrais le mardi soir à 17h, et puis le lendemain, hop, je partais le matin à 7h, j'entrais à 17h. Et dans la journée, j'avais fait quoi? J'avais fait une promo, deux promos, trois promos, j'avais fait des cours, des TD. Et à un moment donné, je sortais, j'avais des certains mardis jusqu'à 8h de cours sur la même journée. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passait? J'en sortais totalement épuisé. Et en fait, ce qui se passait surtout, c'est que ça devenait difficile, car j'avais de moins en moins envie, ça me paraissait de plus en plus insurmontable. Et ça m'amène au dernier point. Et pourquoi je pense que bah, parfois, c'est ce qui peut vous décourager de faire du contenu, de créer des choses, tout simplement parce que ça devient insurmontable à faire, c'est quelque chose qui est trop lourd. Et là, je vais appeler un concept que je n'ai pas inventé, hein, que c'est un concept développé par Ali Abdal dans ses contenus. Il parle de deux notions qu'il appelle lui heavy lift et slow burn. Alors heavy lift, en fait, faudrait voir un petit peu ça comme de l'haltérophilie, vous voyez. Un haltérophile, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met sous une barre très lourde et qui va la porter, tac, tac, tac. La charge, elle est très, très, très lourde. Ça demande un travail lourd, important. C'est vraiment un travail intense, hein, sur un apprentissage. On condense tout. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et puisque ça demande beaucoup d'efforts, ben, on va avoir besoin de beaucoup de motivation pour se mettre dedans. C'est un travail qui fait peur, qui peut être un petit peu décourageant. Et en plus, ce qui peut demander d'ailleurs des bonnes conditions de travail, et c'est là où on arrive à l'idée de deep work, hein. C'est que oui, le deep work qui a été Cal Newport et compagnie, il a raison dans le principe, mais la vie de Cal Newport, je ne sais pas si tout le monde peut l'avoir, tout simplement parce que bah, il a une vie d'universitaire, il a une vie de chercheur, il a une vie d'auteur, d'écrivain, d'enseignant, de toutes choses comme ça. Mais oui, il y a des moments où il était capable de s'enfermer dans une bibliothèque pour travailler 5 ou 6 heures d'un coup. Mais si je vous dis comme ça d'aller à la bibliothèque et travailler 5 ou 6 heures d'un coup, bien entendu que ça peut vous motiver, bien entendu que ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous motiver. Mais ça peut être quelque chose aussi qui peut vous décourager, de vous dire « Ah non, alors là, je me sens pas du tout d'aller faire ça pendant 5 ou 6 heures, donc je vais pas le faire. Et je vais pas le faire. Non, je vais le faire demain, plutôt quand j'aurai plus de motivation, plus de courage. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de le faire. Non, j'ai pas envie de le faire. » Qu'est-ce qu'on ferait à l'inverse? Eh bien, à l'inverse, on ferait ce qu'il appelle le slow burn, hein, ou... Slow burn, en fait, vous savez, c'est le mijotage. Moi, j'appelle ça de la percolation, mais bon, on pourrait dire qu'en fait, c'est comme si vous mettiez quelque chose sur le feu, là, comme ça, et puis vous mettez un feu doux. Et en fait, au lieu de faire quelque chose qui soit un effort très lourd, eh ben, vous créez des choses par petits bouts, et puis vous faites mijoter de jour en jour, comme ça, petit à petit. Donc, vous faites ça, vous répartissez ça sur plusieurs jours. Au lieu de travailler aussi sur un seul sujet d'un coup, là, très fort, on va, par exemple, répartir son effort sur plusieurs sujets, puis on va en faire avancer un jour, et puis un autre un jour, etc. On va faire avancer un petit peu tous les sujets en même temps. Moi, par exemple, chez moi, ça se traduit par j'ai plusieurs idées de contenu, et puis à un moment donné, je vais dire que cette idée de contenu-là, elle est bonne à être publiée, et puis je vais finir de travailler dessus, et j'ai publié. Bon, c'est une méthode qui est facile à appliquer, par exemple, si on veut écrire un livre, qu'on veut créer une formation. C'est plus facile pour moi, je trouve, hein, je vous le dis très clairement, de créer une formation en créant petit bout par petit bout, en assemblant toutes les informations que je veux dedans, et puis à un moment de dire, bon, maintenant, je pense qu'elle est terminée, je vais pouvoir faire l'enregistrement, plutôt que de dire, là, je prends 2 jours pour faire la préparation, l'enregistrement, le montage, etc., parce que ça me paraît énorme. Et je vous dis 2 jours, mais certains, c'est pas 2 jours, certains, c'est 3 mois. Oui, il y a des gens qui s'enferment pendant 3 mois pour faire une formation. L'autre jour, j'ai entendu ça à quelqu'un qui disait « Oui, alors pendant plusieurs semaines, je n'ai travaillé que sur ma formation. Je travaillais plus sur mes clients, je travaillais plus sur mes contenus personnels, je ne faisais que ma formation. » Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bah, bien sûr, c'était décourageant. Et oui, c'est là où c'est décourageant. C'est que ça demande d'une part beaucoup de concentration, c'est que ça demande un effort qui est très, 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 très important. Et puis, pour finalement porter le même poids, et reprenons l'haltérophile. L'haltérophile, il va porter une barre peut-être de 100 kilos, 200 kilos, je sais pas combien ça fait, les records du monde de poids. On va dire, allez, il va porter 240 kilos. Bon, 240 kilos en une fois, il faut un sacré entraînement, il faut une sacrée force, etc. pour arriver à le faire. Si maintenant vous prenez ces 240 kilos que vous divisez par en 10, bon, ça fait 24 kilos à porter. Bon, 24 kilos à porter, vous allez me dire, ouah, c'est encore lourd, hein, ce truc-là à porter. Mais 24 kilos à porter, vous êtes capable de le faire. Si vous avez un enfant, vous êtes porté dans vos bras, vous savez que c'est lourd à faire, mais bon, c'est faisable. Bon, maintenant, vous le divisez par 20, bah, vous allez arriver à quoi? 12 kilos. Vous le divisez un petit peu plus encore, vous arrivez à porter quelque chose comme 5, 6, 7 kilos. Bon, un pack d'eau, c'est 10 kilos, hein. Vous voyez, vous arrivez à porter un pack d'eau, donc vous dites, c'est plus facile à faire. Ce que je veux dire par là, hein, tout simplement, c'est qu'il y a des efforts qui vous paraissent insurmontables parce que vous mettre sous une barre de 200 kilos, ça vous paraît impossible. Porter un pack d'eau de 10 kilos, ça vous paraît facile. Et ben, pour les tâches, pour les actions, pour la créativité, c'est un petit peu la même chose. Et puis, je pense qu'en plus, le slow burn, il a un gros avantage, c'est que si vous êtes un petit peu zèbre et que vous fourmillez d'idées et que vous avez toujours plusieurs idées en même temps, et ben, ça évite de vous frustrer. Parce que vous dites, bon, bah ben là, je vais pouvoir travailler un jour sur l'idée qui me plaît bien, puis un autre jour sur une idée qui me plaît bien. Et puis, quand cette idée-là, elle est arrivée à son terme, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est par exemple de la publier, qui est d'enregistrer l'épisode de podcast qui va avec, qui est de refaire la vidéo ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, en fait, c'est une méthode qui est, on va dire, des petits pas. Et pourquoi j'appelle ça la percolation? C'est parce que vous mettez en fait plein d'ingrédients en haut et puis vous laissez filtrer un petit peu tout ça. Et à la fin, peut-être que vous n'allez pas tout garder, vous n'allez peut-être garder que des éléments. Mais en tout cas, c'est pas un effort qui est important. C'est qu'au fur et à mesure que vous avez des nouvelles idées, que vous ayez des nouvelles choses, etc., vous allez faire avancer les contenus petit à petit. Et à un moment donné, vous allez décider que c'est prêt. Que c'est prêt, et donc vous allez pouvoir passer à l'étape derrière qui va avec. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut rejeter le batching? Ben non, pas forcément. Vous devez, en fait, tout simplement voir si certaines tâches sont batchables ou pas. Tout simplement, par exemple, moi je peux batcher 2-3 vidéos de formation. 2-3 vidéos de formation, c'est assez facile à batcher. Je les tourne quand je suis seul dans mon bureau, sans bruit. Avant, j'ai préparé, j'ai fait mes scripts. Au début d'une formation, en fait, qu'est-ce que je fais? Ben, dans ma méthode de slow burn, je commence à créer tout simplement une mind map dans laquelle je mets les différents éléments, je les range, etc. Puis à un moment donné, à force d'avoir rempli ça sur plusieurs jours, je me dis, bon, ben maintenant, je pense qu'elle est prête. Elle est à peu près prête, etc. Ou alors je me dis, elle n'est pas encore prête et je me donne encore quelques jours pour finir de la remplir. Alors attention, il faut quand même se donner des petites limites hein, à un moment donné. Mais voilà, je me dis ça, à ce moment-là, ça commence à être prêt, ça commence à être pas mal. Et puis, il y a un moment donné où je me sens dans l'énergie, je suis rempli d'énergie pour faire mes vidéos. Et à ce moment-là, je vais faire mes vidéos. Mais quand je sens que j'ai plus d'énergie, que je suis en train de bafouiller ou quoi que ce soit, j'arrête. Je suis pas dans la contrainte de me dire, bon, je viens de faire une vidéo, mais il me reste 10 à faire. Non. En fait, je sais tout simplement que je vais me réserver plusieurs temps pour le faire, hein. Je préfère découper ça en plusieurs temps, hein, vraiment pour le faire. Et me dire, bon, bah là, je dois faire une vidéo ou deux. Et là, ça sera pas mal. Si j'arrive à en faire 3, j'ai l'énergie, j'en faire 3. Des fois, ça m'arrivait d'en faire 4 ou 5 parce que j'avais l'énergie. Et puis, des fois, je me rends compte qu'au bout d'une vidéo, je dis bon, voilà, je préfère arrêter, je vais faire autre chose parce que je n'avance plus du tout. Et puis, il faut aussi voir ce qui peut se faire à l'avance ou pas. Il y a des choses qui peuvent se faire à l'avance. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à l'avance. Moi, je le dis. Mais il y a des choses qui peuvent se faire à l'avance. Certains contenus éducatifs, par exemple sur Instagram, peuvent très bien être prévus à l'avance. Le recyclage d'une vidéo YouTube en petites séquences, pour Instagram par exemple, peut être batché sans aucun problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini sa grosse vidéo YouTube, eh ben on va la découper en plein de petits morceaux. On va dire, bah, tiens, je vais prendre ce petit bout-là, etc. Eh ben, ce découpage-là, en une fois, on peut faire 5-6 petites vidéos sans aucun problème, faire un petit texte qui va avec, et ça, on peut le batcher. Sans aucun problème, oui, ça peut se batcher. Mais pour moi, j'ai envie de dire que c'est pas un gros effort. Vous voyez, c'est pas un très gros effort, cette histoire-là. C'est-à-dire que le gros effort, c'était de trouver les idées, de faire votre vidéo YouTube, de faire tout le montage de la vidéo YouTube. Ça, c'est le gros effort. Prendre des petits extraits de cette vidéo-là et créer des petits bouts pour ensuite les batcher, c'est pas un gros effort. Finalement, c'est un petit effort parce que vous, le plus gros est déjà fait. Vous savez exactement quels sont les morceaux que vous avez fait votre montage, etc. Donc, il suffit de faire du découpage. Bon, voilà. Pour moi, je le vois pas comme un gros effort, mais plutôt comme un petit effort ou un effort moyen si on pouvait mettre sur une échelle des efforts. Et puis, en fait, hein, tout simplement, c'est que il y a au milieu de tous ces contenus éducatifs que vous pouvez programmer, eh ben il y a peut-être des posts qui vont être plus liés au moment, à votre actu, aux sentiments, etc., qui eux ne sauront pas. Et donc, eh ben il faut se garder des temps pour dire, ben là, ben non, je préfère parler d'un sujet qui me semble plus intéressant. Il y a plein de trucs qu'on prévoit pas. Vraiment plein de trucs. Ça peut être, vous êtes dans un domaine où il y a un fabricant qui annonce un nouveau matériel. Vous pouvez avoir une actualité qui s'est passée le week-end. Vous pouvez avoir vous-même fait quelque chose, vous pensiez pas le réussir, vous pensiez faire telle ou telle chose et vous dire, bah, tiens, c'est le moment d'en parler, etc. Ou alors, tiens, je voulais parler de ça, mais là, je me sens pas dans le truc d'en parler maintenant, je préfère en parler plus tard, etc. Donc, faut avoir la souplesse. Vous êtes capable d'avoir de la souplesse. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous sentez qu'une tâche vous semble trop grosse sur le moment, qu'elle vous décourage, découpez-la en petits morceaux. Et au lieu de vous dire, je prends une demi-journée ou une journée pour travailler sur tous ces trucs-là, par exemple, sur tout mon contenu Instagram, sur tous mes épisodes de podcast du mois, etc. Si ça vous paraît trop gros, que ça vous décourage, que le simple fait d'y penser vous semble impossible parce que vous dites, voilà, attends, il faudrait que je fasse ça, j'ai ça, j'ai ça et tout. Oh là là, là, j'ai 5 épisodes de podcast à faire, j'ai 5 épisodes de podcast à monter, etc. Pouh là, ça me semble complètement impossible à faire ou j'ai pas envie de le faire, etc. Là, c'est vraiment un signal qu'il faut changer votre méthode. Et si vraiment vous vouliez travailler en batching et vous rendez compte que le batching n'est pas une méthode qui est pour vous, bah, abandonnez-la. C'est pas parce que tout le monde vous dit de faire du batching que vous allez faire du batching. Non, si vous rendez compte que le batching n'est pas adapté à vous, abandonnez-le, ou alors regardez ce que vous êtes capable de batcher et ce que vous n'êtes pas capable de batcher, et réservez-vous des moments pour vous dire bah, il y a des moments où je vais travailler plutôt sur l'élan de ma journée et puis d'autres moments où je vais travailler sur du batching. Voilà, tout simplement, il faut être souple. Hein. Le conseil de dire on va faire du batching pour tout, etc. Non, celui-ci, on le laisse. Mais par contre, je voudrais quand même finir sur une petite citation que j'ai lue chez un architecte et qui, je pense, peut vous intéresser. Et il disait tout simplement « Une brique n'est pas faite à la mesure du mur. Au contraire, la brique est faite à la mesure de la main de l'homme pour que la main puisse construire le mur. » Et ça veut dire quoi? Ben en fait, c'est la stratégie des petits pas. Hein, c'est que l'homme, quand il a inventé la brique, il l'a faite pour que l'homme il puisse prendre la brique, la prendre dans sa main et la poser. Hein, tout simplement, il n'a pas pris des très gros blocs hein, qui sont impossibles à poser. Non, tout simplement, il découpe la construction du mur en petits bouts. Voilà, tout simplement. L'homme a toujours découpé la construction d'un mur en petits bouts. Alors bien sûr, dans l'histoire, il y a toujours des trucs, les Incas, les Égyptiens, mais comment ils ont mis des gros blocs de pierre, etc. et tout. Et ben oui, ben, ils avaient des équipes, ou alors peut-être certains ont des théories un peu plus farfelues. Mais toujours est-il que quand vous regardez comment sont construites beaucoup, beaucoup de maisons, quand vous construisez beaucoup de choses, la plupart du temps, vous partez plutôt sur la taille d'une brique et vous assemblez des petites briques. Et puis je vous rappelle quand même que d'assembler plein de petites briques, ça finit par faire un grand mur, un vraiment très grand mur, et que ben, ça marche. C'est quand même une technique qui marche, hein, tout simplement. Même si le batching peut être de dire, eh ben, je vais placer un jour, tout simplement, et je suis capable de placer 100 briques, et puis un autre jour, je suis capable d'en faire peut-être que 10. Bon, voilà, tout simplement, ça marche. Hein, le découpage en petites tâches marche aussi. Quoi qu'on en dise, ça marche aussi. Bon, forcément, c'est peut-être moins efficace par certains aspects. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que le fait de découper son travail sur une vidéo en plusieurs jours va être plus compliqué parce que ça veut dire qu'on morcelle ses journées, qu'on morcelle son temps de travail, etc. Mais peut-être que c'est le meilleur moyen pour vous d'avancer vraiment sur vos projets. En tout cas, si c'est le moyen qui vous permet de vraiment avancer, de créer du contenu, de produire du contenu, de produire des choses, eh ben c'est ce moyen que vous devez appliquer. Si le batching est plus adapté à votre agenda et votre philosophie et votre manière de travailler, faites du batching, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce que je pense du batching, hein, de ce que je pense de cette pratique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous pouvez m'envoyer un petit message, me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Bertrand Soulier partout, et puis bien sûr vous pouvez mettre un petit commentaire sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles, vous savez que ça aide le podcast à être découvert, que ça permet à plus de gens de l'écouter, que c'est un encouragement, un véritable encouragement à continuer ainsi, et ça aide aussi finalement à d'autres personnes à vivre leur vie créative pour que d'autres personnes découvrent la joie que c'est de créer du contenu, de développer sa marque personnelle, d'avoir des fans qui viennent nous suivre, nous encourager, qui apprécient ce que l'on fait. Moi, je pense que c'est un véritable outil de confiance en soi, de travailler sur des choses qui nous plaisent comme ça, et j'ai vraiment envie que nous soyons de plus en plus nombreux à le faire. Alors, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.